Premier rendez-vous en nouvelle diffusion.
Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière sur La Première. Notre première invitée fait partie des 1 à 2% de femmes guides de haute montagne. En cela, elle est une exception. Coordinatrice du 100% Woman Peak Challenge qui a permis à plus de 400 femmes de gravir 48 sommets suisses de plus de 4000 mètres, son objectif avec Swiss Tourisme est de démocratiser les hauteurs au public féminin. Côté parcours, cette juriste de formation grandit à Lézin, étudie à Fribourg avant de vivre aux États-Unis, puis en France et de finalement s'installer en Valais avec son mari, guide lui aussi, et leur petite fille. S'il fallait un seul mot pour caractériser cette quadra, éprise de cascades de glace et d'aventures en tout genre, le terme d'intense la caractériserait bien. Notre deuxième invité est un électron libre, d'abord enseignant en art visuel, puis comédien et metteur en scène. Ce gruérien d'origine s'occupe désormais du versant invisible de l'existence, comme géobiologue notamment, et comme guide pour des voyages initiatiques sur des lieux sacrés de Suisse romande. Désireux de rendre un peu moins sorcier le domaine de l'énergétique, ce quadra chevelu se lance dans des capsules de vulgarisation sur YouTube. Docteur Conscient, voici son nom, sous-titré « Spécialiste en allumage du bocal ». Non sans humour, vous l'aurez compris. Père d'une petite fille avec sa compagne, ils vivent pas loin d'Yvenan, dans le canton de Vaud. Notre première invitée est Caroline Georges, notre second invité est Laurent Gachou. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Laurent Gachou.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci.
Bonjour Caroline Georges.
Bonjour.
Et bienvenue à vous aussi.
Merci.
On va commencer avec vous Laurent Gachou, un premier rendez-vous qui vous a touché, bouleversé. De quoi vous nous parlez ?
Alors, j'ai envie de parler de ma maison. Notre maison.
Ok. Ouais,
c'est parce que on est à Donnelois, pas loin d'Yvenan, et on a atterri là-bas parce qu'on a vu cette maison à vendre, qu'on a eu la chance d'acheter, qui est un vieux manoir du 18e.
Et il y a plein de fantômes par là-bas, c'est ça?
Disons qu'il y a, c'est un lieu effectivement qui a une histoire. C'est une magnifique maison qui est classée. Et puis, depuis 2014, c'est une grande aventure. Et la chose que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'on est là-bas, il y a plein de choses qui a bougé. Ça a vraiment été... Parce qu'avec ma compagne, on n'est pas mariés. Mais d'avoir acheté cette maison ensemble, d'avoir fait cette aventure et de la continuer, parce qu'on l'a restaurée aussi, cette maison. Donc, il y a eu vraiment une action dans la matière. Ça a été une sorte d'acte contractuel extrêmement puissant. C'est aussi dans cette maison que notre petite fille est née, sans la présence de la sage-femme.
Toute une aventure.
Toute une aventure. Et effectivement, c'est une aventure à la fois merveilleuse. Ça a été un grand feeling, vraiment une rencontre. Ouais, c'est... Même si c'est pas une personne, cette maison, elle a quelque chose.
Elle ressemble à quoi? Alors dites en quelques mots.
C'est une maison d'architecture du 18e. Ça peut ressembler à une ancienne cure. Ça a été un restaurant, donc elle a une belle symétrie, une magnifique toiture d'architecture plutôt française. On le surnomme le manoir. On ne sait pas si à la base c'était un manoir. Le petit chemin, c'est la vignette. Donc on pense qu'à l'époque il y avait des vignes à cet endroit-là et que ça a été peut-être une maison bâtie par quelqu'un d'assez aisé un peu avant la Révolution française. Le canton de Vaud était encore le canton de Berne à cette époque-là. Et puis cette maison a été tour à tour une auberge, un jeu de quilles, un relais équestre. C'est une maison importante. Beaucoup de gens racontent des histoires dans le village autour de cette maison et j'aime bien les histoires qui se racontent autour.
Comme par exemple Laurent Gachou.
Une des propriétaires dans les années 60... elle était brocanteuse et puis elle a voulu redonner un petit peu à cette maison ses lettres de noblesse. Elle est parue dans le Fémina. On a des articles de cette personnalité qui avait une forme d'originalité. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de traces d'elle dans cette maison.
Des objets.
Il y a des réfections. Il y a elle a chiné passablement de vieilles portes qu'elle a ramenées là, donc dans différentes brocantes. Donc notre maison, elle rassemble plein d'éléments, notamment par exemple, si je me souviens bien, la porte de la maison de Madame de Varan à Échallens. On a une porte des prisons d'Échallens qui sont chez nous. Donc voilà. En fait, c'est un rassemblement de...
Un univers en entier,
un univers,
Laurent Gachou. Et bien voilà pour le manoir de quoi déjà ?
De la vignette.
De la vignette. Merci beaucoup pour ce premier rendez-vous. Donc avec une maison qui... En tant que géobiologue, je pense, doit de toute façon résonner d'une manière spécifique.
Effectivement, oui.
Caroline Georges, votre premier rendez-vous à vous, elle parle de quoi ?
Alors, mon premier rendez-vous marquant, c'est celui d'avoir rencontré ma fille, sa naissance. De voir ce petit être ramper sur son corps nu, sur mon corps nu, et de nous voir yeux dans les yeux. Et ça a été un moment, pour toutes les femmes, je pense, mais déterminant, en fait. Je pense que on était et on devient. Et on ne sera plus jamais comme avant, en fait. À partir de ce moment-là, elle est devenue le centre de ma vie et mon moteur de vie, en fait. Elle est la raison pour tout ce que je fais.
Caroline Georges, comment s'appelle votre fille alors ?
Elle s'appelle Olivia.
Olivia. Caroline Georges, elle a quel âge ?
Elle a 9 ans. Et on l'a nommée Olivia parce que j'aimais beaucoup le concept des rameaux d'olivier. Et du coup, c'est symbole de la paix, en fait, qu'elle pouvait apporter dans le monde. Voilà.
Tout un programme, Caroline Georges.
Pression, la pauvre.
Et donc, vous l'avez conçue aux États-Unis, c'est juste ?
Non. En fait, à l'époque, on habitait à Chamonix, donc elle était conçue à Chamonix. Ouais. Et elle est née à Aigle.
Et vous êtes rendu compte que vous l'aviez en vous, je crois, aux États-Unis, par contre, c'était ça ?
Non.
Alors j'ai mal compris les informations que vous m'avez communiquées.
Oui. Non. Non. On a beaucoup voyagé. Vous inquiétez pas, c'est normal que vous vous perdiez. Non, elle était. Je suis tombée enceinte le jour même. Je savais déjà que j'étais enceinte. Et non, après, on était aux États-Unis quand on a déterminé si c'était une fille ou un garçon. Et aux États-Unis, ça se passe qu'on peut aller dans des centres commerciaux, comme on va acheter des habits. Il y a des endroits pour dire si c'est un garçon ou une fille. Donc là, je me retrouvais dans un centre commercial dans l'Utah, le pays mormon. Du coup, c'est un très bon business, en fait, déterminer le sexe d'un enfant là-bas. Et c'est là que j'ai appris que c'était une fille. Donc là, j'étais enceinte de 3 mois à ce moment-là.
Caroline Georges, merci pour ces précisions, me voilà éclairée. Je vais vous laisser vous poser des questions, chers invités, pour que vous puissiez vous découvrir et en savoir un peu plus l'un sur l'autre. Caroline Georges, vous ouvrez les feux, vous posez des questions à Laurent Gachou, c'est à vous de jouer.
Alors, votre manoir, du coup, comme c'est un ancien bâtiment, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui habitent avec vous ?
Dans l'invisible ou dans le visible ? Parce qu'on a des locataires.
Ah, en plus ?
Oui.
Ah, ok. Vous avez fait comment pour les choisir ?
Il y a une personne qui vient de partir et qui était déjà présente quand on a acheté la maison. Donc, on a acheté la maison avec un locataire. Et puis, maintenant, ça s'est renouvelé parce qu'on a créé un appartement dans la magnifique toiture, dans les combles. Et c'est la belle famille qui est arrivée. C'est la sœur de ma compagne qui se sont installées. Ils ont décidé, après la période de confinement, de quitter Genève, la ville, pour venir s'installer là. Et du coup, notre petite fille, elle a ses cousins qui sont dans la maison. Et puis, une autre personne, parce qu'il y a 3 appartements loués. C'est beaucoup le feeling, parce qu'on n'a pas de gérance. Donc, on met des annonces, puis après, on reçoit un petit peu des demandes, et puis on discute. Et la plupart des gens, quand même, tombent un peu amoureux de cette maison. Mmh. Il y a quelque chose. Ils viennent pas là par hasard. Souvent, elle a quelque chose d'assez éblouissant. Puis c'est des gens qui aiment bien les vieilles pierres, qui aiment bien ce que raconte ce genre de maison.
Mmh. Et dans l'invisible ?
Dans l'invisible, on a choisi cette maison parce que on a trouvé vraiment que il y a un grand jardin, un grand parc avec des vieux arbres, qu'il y a quelque chose qui nous pose. Si la question c'est est-ce qu'il y a des vieilles énergies un peu sales,
pas forcément sales, non.
Ouais. On a trouvé plutôt cette maison porteuse, vibrante. Quand on l'a visitée pour la première fois, je me souviens, j'avais vraiment des sensations assez intenses à l'intérieur de moi. Notamment en visitant le jardin. Mmh. Et ces vieux arbres, la présence de ce jardin un peu romantique, il y avait quelque chose de très séduisant, mais aussi d'envoûtant et de quelque chose qui nous emballe.
Mmh. Quelle est la distinction entre sale et propre comme énergie pour vous ?
C'est une bonne question, ça. Je dirais que c'est surtout l'effet que ça fait à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous. Il y a des fois des endroits où j'ai quand même l'impression qu'on peut se sentir un peu serré, étriqué, pas très à l'aise, et d'autres endroits qui nous émerveillent. Donc il doit y avoir quelque chose, soit dans la facture en fait du lieu, sa décoration, etc. Puis peut-être même des éléments qui sont inscrits à l'intérieur des murs.
Mmh. Est-ce que ces énergies sales Est-ce que c'est des endroits où il faut aller pour pouvoir travailler des choses? Est-ce qu'elles sont sales intrinsèquement ou par rapport à nous?
Excellente question aussi. Je pense que c'est les deux. Ce que j'ai remarqué justement, c'est que quand je fais mon travail d'intervention dans les lieux comme géobiologue, j'essaie justement de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont peut-être attiré à eux quelque chose qui est pas très agréable, mais aussi pour faire un chemin. Et donc j'aime bien aller sentir à l'intérieur qu'est-ce que ça génère comme dans des situations parfois relationnelles pas évidentes, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on peut bouger à partir de là.
Donc ça veut dire que vous responsabilisez beaucoup Laurent Gachou, les gens qui viennent vous voir, c'est les gens qui viennent vers vous et vous disent j'ai une entité collée sur le dos, je sais pas, des gens comme ça, vous avez tendance à pas les croire et
Alors je les crois, mais j'essaye de pas accorder trop d'importance et trop de valeur à ce qui est à l'extérieur. Ça veut dire que ça existe ou non, la personne elle sent quelque chose, donc je pars du principe qu'elle vit quelque chose de difficile, mais ce qui m'intéresse moi, c'est d'aller voir en fait la tension que ça génère, la peur que ça génère. Et à partir de là, on peut travailler. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans mon expérience, quand on enlève ou quand on essaye de faire quelque chose à la place de la personne, c'est comme si parfois elle se retrouve un peu dans une position d'impuissance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les cartes en main. Moi, je préfère donner un petit peu les cartes en main.
Et comme ça, les gens sont quittes de vous voir comme un sorcier tout puissant, c'est ça, Laurent Gachou?
C'est ça, je préfère.
Voilà, Caroline Georges, vous avez vos réponses. On inverse les rôles, vous voulez bien?
C'est parti.
Allez, Laurent Gachou, c'est votre tour.
Qu'est-ce qui vous attire en fait dans ces montagnes, ces sommets?
La vue. La vue de mon intérieur en fait.
Ok.
En montagne, on est quand même très confronté à soi-même. C'est une ablation des règles de la société. Bien sûr, il y a d'autres règles en montagne. Hein. Toutes les règles sont créées par des humains. Donc. Se sont appropriés un petit peu tous les domaines et comment les pratiquer. Mais c'est un endroit où on peut vraiment retourner vers son essence propre, en fait. Ça purifie tant l'âme que le corps, l'esprit. Donc c'est ce que j'y recherche et puis à travers mon métier, c'est ce que j'essaie de communiquer aussi.
Ça se manifeste comment à l'intérieur de vous quand vous parlez de purification d'âme? Ça se manifeste par des sensations, c'est comment?
Non, mais je peux me réveiller le matin un peu fatiguée ou de mauvaise humeur et il suffit que j'aille en montagne et je reviens et je suis en paix. J'expliquais ça à Pauline ce matin que je pense que la montagne, elle a un côté alchimiste en fait. Elle est capable de transformer, la nature en général, elle est capable de transformer une énergie négative en une énergie positive. Et cette alchimie-là, je la trouve magique et puis j'ai la chance de pouvoir y aller tout le temps en fait, de par mes connaissances je peux y aller seule pour me ressourcer moi-même ou bien c'est vraiment mon but dans la vie que plus de gens aient accès en fait à cette ressource.
En tant que guide, vous avez des anecdotes, que ce soit des gens qui vous ont suivi ou même pour vous-même, de transformation radicale d'expérience de montagne qui après ont changé la vie des gens?
Oui, j'ai
commencé par vous, Caroline Georges, quand même, non? Il y a un peu une expérience fondatrice qui a fait que vous avez fait de la montagne. Un moment limite, comme ça.
Mon accident?
Bah oui.
Ah oui.
Vous faites quand même une chute de
450 mètres.
Oui, c'est monstrueux. Ouais, vous êtes une miraculée, quoi.
Oui, c'est sûr. Et puis, pour moi, ça a été vraiment un élément alchimiste, effectivement, où ma vie, elle a basculé. Elle aurait pu basculer plus loin, mais elle s'arrêtait juste au bord de ce vide imaginaire, en fait, entre la vie et la mort, où j'ai fait une grande chute en montagne, j'ai eu un grave accident. À l'époque, il n'y avait pas encore téléphone portable, donc c'était un petit peu à la vie et à la mort, en fait. Et cet élément-là, en fait, il m'a vraiment propulsée dans le monde de la montagne. Je suis née dedans avec ma famille, et ce moment-là, en fait, de passer 2 mois à plat sur dos à l'hôpital, à guérir, en fait, m'a poussé encore plus vers cet élément. Je pense que c'est un élément où on peut vraiment ressentir la vie profondément. Et je cherche pas à y retourner pour des expériences aussi intenses, mais il y a toujours quelque chose d'intense en montagne où on se sent vibrer, on se sent vraiment en vie.
Vous faites partie des personnes qui croient que la montagne, elle a un pouvoir énergétique, ou que ça se passe plutôt à l'intérieur de manière symbolique?
Je pense que la montagne, elle est neutre. Bien sûr, elle a une puissance intrinsèque. Et je pense, comme vous disiez avant, quand on parlait des énergies propres ou sales, je pense qu'il y a une partie intrinsèque de l'énergie et puis il y a une énergie qui est en relation avec l'être humain. Et chacun la vit différemment, en fait, cette énergie-là. Donc, pour moi, mon énergie, elle est magnifiée quand je vais en montagne. C'est pas forcément le cas pour tout le monde vit ça différemment. Mais je pense qu'il y a quand même une énergie pure, en fait, où toute cette pollution sociétale qu'on vit, à laquelle on est exposé tous les jours, elle est loin. Et ça, on l'a beaucoup remarqué aussi avec ces potes du Covid, où qu'on est en ville, qu'on est en plaine, il n'y a que ça, et qu'on va en montagne, ça n'existe pas. C'est un concept qui ne nous passe même pas par la tête. Quand on redescend en plaine, on est nouveau exposé à cette anxiété qui n'existe pas là-haut. Donc ça montre vraiment qu'il y a des mondes parallèles dans lesquels on peut évoluer.
Vous êtes guide, vous aimez la montagne seul, mais vous aimez accompagner des gens. C'est comment l'aspect relationnel, en fait, quand vous allez accompagner des personnes? Est-ce qu'il y a une vraie relation qui s'inscrit avec les gens que vous guidez?
Oui, tout à fait. Je pense que tout est en équilibre dans la vie. Donc, autant je vais en montagne avec des gens, autant j'ai besoin d'aller seul aussi pour pouvoir être présente avec les gens et puis pour être bien avec moi-même. Donc, et puis, j'ai besoin du partage pour être bien avec moi-même. Donc, il y a un petit peu des deux. Et oui, je pense que c'est un endroit où on peut discuter de plein de choses. On passe plein de temps avec des gens. Ils sont à leurs limites. On est là pour les pousser un petit peu plus loin, leur donner confiance, leur faire réaliser des rêves. Et puis, justement, aller au plus proche de qui ils peuvent être en dehors de ces règles sociétales auxquelles ces personnes sont exposées au cours de leur évolution humaine.
Deux invités en une heure, leur premier rendez-vous.
Le sommeil a disparu, j'assomme ce qui contrôle tout. Agité quand tu cogites, avec ces choses je cohabite. Corps et âme vont se séparer, cortisone à s'égarer. Réveil sonne, je suis pas paré, de tout ce qui se boit je vais m'emparer. Dans ce monde c'est quoi qui est réel? Quelques secondes tu prends une tuile, en danger comme le Sahel. Tout prend feu comme eau sur huile. Je veux sourire sans trêve, ciel va s'ouvrir comme rêve. Je veux sourire sans trêve, ciel va s'ouvrir comme rêve.
Cohérence a disparu comme pays neutre qui vend des armes. L'arme avinée sont apparues, c'est peut-être ça qui crée ton charme. Courir intense, je veux me délecter, l'alarme sonne, je veux l'éviter. Plaisir dense m'est apparu comme un ballon, je veux l'éviter.
La dopamine d'Instagram choisit ma vie à Amstramgram. Retrouver son premier amour, comme Gainsbourg je chante la l'amour. Je veux le dire mais je prends des tours, je veux que rire ça me joue des tours. Je veux sourire sans trêve, si elle va sourire comme rêve, ouais. Je veux sourire sans trêve,
thank you.
Baron, baronne sur la première comme un rêve et vous ne rêvez pas aujourd'hui dans l'émission Caroline Georges, guide de haute montagne qui vit en Valais et Laurent Gachou qui est en quelque sorte un docteur conscient. Il se dit aussi agité du bocal ou disons spécialiste de l'allumage du bocal des gens. On va écouter une petite capsule humoristique, c'est votre personnage de YouTube qui parle, on vous écoute.
Quand je dis que je suis géobiologue, soit la plupart des gens me regardent bizarrement, soit ils me demandent
« Tu fais des études avec des cailloux ?»
Géobiologue, pas géologue. Alors je t'explique, je regarde ce qui se passe au niveau énergétique dans les maisons.
Ah ouais, tu fais dans les maisons Minergie ?
Non, je... Et là je me retiens de dire que je nettoie des maisons pour éviter la remarque.
Tu fais des ménages ?
Je suis géobiologue, je fais partir les fantômes.
Tu crois aux anges qui passent, toi ?
Il y a ceux que je préfère... C'est ceux qui aiment bien exposer leur expérience personnelle. Moi, j'ai fait venir un géobiologue. Franchement, il était incroyable. Quand il est arrivé, j'ai vu son aura. Il a tout de suite vu qu'il y avait un croisement tellurique sur le lit, exactement là où j'ai eu il y a 2 ans l'opération des ovaires. Après, il a vu une entité derrière le fauteuil. Quand il m'a décrit l'entité, eh ben, c'était ma grand-mère.
Laurent Gachou, vous rigolez bien aussi entre guillemets de tous ces gens qui gravitent dans ce domaine des énergies qui est très large, qui est fait de plein de gens avec diverses motivations. Vous aimez bien vous moquer de ceux qui vous nourrissent, Laurent Gachou ?
J'aime surtout me moquer de moi-même parfois, d'avoir un peu de recul sur tout ce que j'ai fait ces dernières années.
Ouais, parce que c'était pas tout de suite évident hein, votre parcours dans le domaine énergétique. Vous avez commencé comme enseignant en art visuel.
Oui.
Vous avez fait aussi pas mal d'humour dans le milieu du théâtre.
Oui, j'ai commencé par ça, effectivement, des one-man shows à l'époque, jusqu'en 2005-2006.
Donc vraiment un petit rigolo, ça on l'entend dans le personnage du docteur conscient, il y a quelque chose qui reste, ça ?
Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un peu laissé ce monde de l'humour, je dirais début 2010-2011, pour me consacrer principalement à de la recherche théâtrale un peu plus contemporaine, avec des textes, mais c'est resté en moi cet humour-là, même si j'ai pas forcément dans la vie courante l'air très très rigolo. Et puis c'est ressorti pendant ce confinement avec mon ami Didier Kounegracht, avec qui accaparait pour l'instant pas à la caméra, mais qui est derrière. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer des choses et de parler de ce monde-là avec légèreté. Moins prise de tête, et puis de pouvoir communiquer aussi à un large public qu'est-ce que ça peut être ça, parce que c'est vrai que cette géobiologie, ce monde un peu, est un monde un peu caché.
On le voit pas, surtout ces ondes telluriques, clairement. Ces croisements, etc. C'est là, pour la plupart du gens, c'est un peu du chinois.
Ben oui, parce que ça reste vraiment une pseudo-science, donc on est dans quelque chose où ça passe par la bande, ça veut dire qu'on se passe des numéros de téléphone, c'est un peu comme quand on dit cochu, ils auraient les listes des gens qui ont des secrets. Mm-hmm. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment étalé comme ça, parce que c'est mystérieux. Et y a beaucoup de gens qui me posaient des questions, et puis je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut parler à tout le monde de ça? Mm-hmm. Voilà, en tout cas essayer. Et l'humour marche bien, et en même temps, moi, ça me permet d'avoir du recul sur ce que je fais, et je pense que c'est important. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on peut aussi vraiment rentrer là-dedans de manière un peu prise de tête. Et puis ça dédramatise tout.
Vous êtes parti dernièrement, Laurent Gachou, à la rencontre des menhirs de Clindy, c'est ça ?
Oui. Avec Didier aussi, il y a eu un appel à projet de la ville d'Yverdon avec les théâtres Benoît Besson et théâtre de la Chandolle. Ils donnaient une bourse et on s'est dit j'ai eu cette idée. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire quelque chose in situ, d'un peu mystérieux, de drôle, qui parle du sujet géobio mais qui utilise un peu l'aspect performatif. Et puis on a choisi ce site et on a proposé le titre de travail, c'était La vérité vraie des menhirs de Clindy. Et l'idée, c'était de faire une visite guidée, qui était aussi en partenariat avec l'Office du Tourisme, qui était présenté comme étant un peu décalé, mais sans qu'on dévoile le contenu. Et donc, on avait des visiteurs qui ne savaient pas du tout qu'ils allaient rentrer en fait, dans une performance. Donc, c'était un peu comme une caméra cachée sans caméra.
Et tout le ça fait rire les gens.
Ce qui est incroyable, c'est à quel point en fait, on peut ramener les gens dans un univers et dans un monde de manière très, très sérieuse. Alors, la première partie de la perfo, c'était vraiment une visite et on exposait ce qui se passe au niveau archéologique, ce qu'on sait au niveau archéologique, ce qu'on sait au niveau géologique. Puis petit à petit, au fil de la visite, on prenait des vérités de différents mondes, la géobiologie, l'hydrogéologie, des appareils de mesure, la physique quantique, et on a posé des choses qui sont soit des vérités dans ces mondes-là, ou à l'état d'hypothèse, et on a assemblé tout ça de manière à construire un discours un peu manipulateur, mais pour justement faire sentir aux gens à quel point aujourd'hui le concept de vérité, de réalité, quand est-ce qu'on se fait embobiner, c'est quoi les sources, etc. Et pendant une heure et quart, on amène les gens, et jusqu'à un moment donné où le son arrive, et puis clairement on assume l'aspect spectacle. Voilà. Et là, les gens, il y en a qui sont décontenancés, il y en a qui sentaient un peu que ça allait vriller et puis qui rigolent avant. Mais on a trouvé vraiment que cette expérience était assez humainement très forte. Et je pense qu'elle s'inscrit bien aujourd'hui dans toutes ces considérations.
Laurent Gachou, je le disais en introduction, vous allez sur des lieux sacrés en Suisse,
oui,
avec des groupes. Donc en fait, vous le faites pour rire, aussi pour faire réfléchir les gens, mais vous le faites aussi dans un but de transformation pour les gens qui vous accompagnent.
Alors oui, quand je propose une sortie ou un voyage initiatique, c'est vraiment pour moi d'utiliser ces lieux. Ça peut être des lieux du néolithique, comme le site de Clandy avec les menhirs, mais ça peut aussi être la cathédrale de Fribourg, ça peut être l'abbatiale de Romain Mottier. On va dans ces lieux et j'utilise quelques codes en fait de ce monde de la géobiologie pour comment dire, montrer aux personnes et guider les personnes vers leur intérieur et de voir à quel point en fait on peut se mettre à l'écoute d'un lieu, on peut se mettre à l'écoute de quelque chose qui est extérieur à nous j'utilise aussi tous les principes de ce qu'on trouve dans l'archéologie sacrée. Ça veut dire il y a beaucoup de codes en fait de symbolique dans l'architecture d'une cathédrale, notamment les dimensions, certaines sont faites sur des rapports
de nombre d'or,
etc. Ouais. Et il y a plein d'informations cachées.
Et vous les rendez sensibles à ce genre d'informations.
On les rend sensibles, ouais. Et tout fonctionne aussi. Vous parliez d'alchimie. Ces lieux ont été créés en fait selon des principes alchimiques. Mmh.
Laurent Gachou, vous êtes assis à côté de Caroline Georges, qui est aussi une guide de haute montagne. Et justement, rendre sensibles les gens à leur environnement, leur montrer des fois ce qu'ils ont sous les yeux. Est-ce que vous devez le faire, Caroline Georges? Parfois, est-ce que les gens sont concentrés justement sur leur téléphone à prendre des photos non-stop et ils sont plus là pour le côté performatif et finalement de pouvoir inscrire ça sur leurs réseaux sociaux et pas vraiment présents avec vous dans l'effort, ou est-ce que c'est très rare ce genre de moment?
Non, c'est de plus en plus fréquent en fait. Et ça dépend vraiment des sommets sur lesquels on va, donc des sommets comme le Mont Blanc, le Cervin, des sommets qui sont plus axés sur une gratification sociale. Là, il y aura tout de suite, c'est tout de suite les photos, c'est tout de suite.
Mais il y a quelque chose de commercial aussi dans la montagne, Caroline Georges.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, chacun a son approche. Mais j'ai en tête un événement assez récent où on était avec des journalistes au sommet du Brighthorn, où j'ai dû dire à tout le monde, maintenant, tout le monde, vous posez tous ces téléphones. Et puis vous appréciez le fait d'être là, quoi. Enfin, déjà, j'ai dit, si vous voulez communiquer de manière authentique en tant que journaliste aux gens qui vont vous lire ou vous écouter, il faut que vous ayez déjà expérimenté ce que c'est d'arriver sur un sommet et puis de ressentir. Après, vous pouvez le communiquer plus loin, mais si vous arrivez au sommet puis que c'est juste Instagram direct, il n'y a pas d'authenticité. Donc ça se perd quand même vraiment actuellement. Et ouais, c'est un peu triste.
Caroline Georges, vous avez été la coordinatrice d'un projet très ambitieux de Suisse Tourisme qui visait justement à faire grimper toutes sortes de femmes sur les sommets de 4000 mètres ici en Suisse. Vous avez réussi à en amener pas loin de 400 avec différentes guides femmes. Comment ça s'est passé et c'était quoi l'idée?
Alors, Suisse Tourisme a créé ce projet en fait sur la base d'études de marché qui ont été faites au niveau international, qui montre que dans les 5 années à venir, tous les sports de plein air vont se féminiser de 80 à 90%. Donc c'est énorme, ça correspond au double de la taille de la population de la Chine et de l'Inde ensemble.
Donc au niveau mondial, on est bien d'accord.
Au niveau mondial, ouais. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un immense marché. Donc du coup, ils ont lancé ce projet. Le projet principal, c'est Women Only. Donc c'est pour tous les sports de plein air, en fait, et avec un projet phare, le Peak Challenge, qui était que tous les 4000 de Suisse, il y en a 48, soient gravis par des cordées 100% féminines, guidées ou autonomes.
Vous en avez fait quelques-unes?
Oui, oui, oui. Beaucoup même, plus que d'habitude sur des 4000. Et du coup, c'était vraiment pour voir s'il y avait vraiment une demande de ce côté-là. Et effectivement, le projet a eu un énorme succès. Tous les 4000 ont été gravis par des cordées 100% féminines. Et du 8 mars au 8 septembre, en fait, dans cette période-là. Et ça a été vraiment impressionnant. Ça a eu un effet boule de neige incroyable, où les femmes sont vraiment motivées à aller en montagne. Elles se sont senties qu'elles avaient une place pour s'exprimer, où elles étaient... Elle se sentait, ouais, bien.
Parce que les femmes guides autour du monde, c'est quoi, 1 à 2% de tous les guides qui existent. En Suisse, c'est aussi un chiffre qui est assez petit, je crois.
Oui, c'est 2%, c'est représentatif de la population féminine des guides dans le monde entier.
Caroline Georges, c'est important pour vous? Est-ce que vous en tirez une fierté spécifique? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être une femme guide?
Pour moi, ça n'a jamais été une question, en fait. J'ai aimé la montagne, j'ai voulu en faire mon métier, et c'est qu'au moment où j'ai voulu en faire mon métier que je me suis rendu compte, ou que j'ai commencé à faire des choses en montagne qui faisaient parler un petit peu, où j'ai compris que la montagne était assez genrée, en fait, où une fois que on entrait sur ce domaine qui est encore très majoritairement masculin, on m'a fait des remarques comme Caroline, pourquoi tu veux faire la compétition avec des hommes? Alors que jusque-là, ça m'était jamais...
Mais ça vous
croisé.
Avait pas traversé l'esprit que vous pouviez être en compétition?
Non,
pas ça.
Parce que j'étais juste en train de faire quelque chose qui me faisait plaisir à moi et que moi j'avais envie de faire. Et c'est vrai que ça m'a choquée et j'ai pâti de ça, ouais.
Caroline Georges, j'avais une autre question par rapport à cette idée de ramener un maximum de gens dans la montagne, ce côté commercial justement, vous qui avez besoin d'être en solitude, qui avez besoin d'être vraiment en connexion avec cet élément-là, ça vous fait pas peur de trop démocratiser cette pratique? Il n'y a pas un côté de vous qui est en flippe en se disant « oh là là, bientôt il y aura tout le monde à la montagne parce que ça devient la mode et parce que je sais pas ».
Je pense que la montagne, elle demande quand même pas mal de respect encore, même si ça se démocratise aussi avec les réseaux sociaux. Il faut quand même avoir les connaissances pour y aller, et du coup la démocratisation, bien sûr qu'il y en a, mais c'est pas à une grande échelle encore. Ça fait encore peur, c'est encore difficile. Il faut sortir de sa zone de confort, et puis je pense que ça va. Il y a encore un petit peu de marge.
Il y a de la marge. Caroline Georges, Laurent Gachon, on repart en musique cette fois-ci avec Elton John, Rocketman. On part un peu quelque part, loin, sur la lune. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight, burning out his fuse out there.
your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job. 5 days a week, a rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again.
Elton John sur la première. Premier rendez-vous aujourd'hui avec Caroline Georges, guide de haute montagne, et Laurent Gachou, géobiologue. C'est le moment de sortir vos objets, chers invités. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? Le premier qui le sort, le premier à gagner. Alors, Caroline Georges. Oh, c'est facile, ça. Qu'est-ce que vous avez apporté?
Moi, j'ai apporté, ben, ce que j'apporte toujours, mon téléphone portable. Surtout parce que je suis une accro des livres audio. Et du coup, j'ai ça avec... Donc, je peux toujours écouter un livre et j'aime bien les méditations aussi. Et ouais, c'est un petit peu...
des méditations guidées sur votre téléphone,
voilà.
Donc, c'est ça.
Ouais, c'est un peu mon vecteur d'expérience moins loin que d'aller en montagne. Ça me fait des expériences. Et moi, la vie, c'est tout basé sur des expériences. Donc, voilà, les expériences que mon téléphone me permet d'avoir de mon quotidien, j'aime.
Merci Caroline Georges donc pour ce téléphone voilà qui est devant vous et qui vous accompagne partout. J'ai même l'impression que vous le prenez quand vous partez seul longtemps. Vous avez quand même un petit livre audio pour vous tenir compagnie, c'est ça?
Oui, toujours. J'ai toujours un livre audio avec moi et aussi j'ai aussi ma fille, plein de vidéos d'elle, et puis du coup quand elle me manque, quand je suis là, ben, je peux regarder ou bien je peux l'appeler et puis la voir en visio. Et puis ça a quand même vraiment facilité des liens de vie, de pouvoir se voir même quand on n'est pas présent.
Mmh. Surtout que vous avez comme ça un papa américain, une mère française, vous avez 3 passeports, vous parlez 4 langues, vous êtes beaucoup en déplacement, c'est ça aussi?
Oui, voilà, moi je suis une nomade de la vie. Mais j'ai lu dans un livre en fait que les êtres humains à la base étaient des nomades et que toutes les maladies et tous les problèmes sociaux se sont créés une fois que les êtres humains se sont sédentarisés. Donc je viens d'apprendre que je suis une norme.
Très bien. Laurent Gachou, de votre côté, qui est-ce que vous avez amené là?
J'ai apporté une petite statue en bois faite main de monsieur Nicolas de Flux, le saint patron de la Suisse. C'est une personne qui me touche particulièrement. Dans les voyages que je propose, je vais régulièrement dans le canton d'Obwald à Flüeli-Ramft pour visiter cet endroit. Je dirais que c'est vrai que c'est une rencontre aussi intérieure par rapport à cet homme, indépendamment en fait de son appartenance au christianisme. Mais c'est plusieurs plans. C'est qu'à la fois ça a été un homme spirituel, ancré profondément dans une foi, qui a décidé en fait de faire son ermitage, de se vouer finalement à son intérieur, donc comme aujourd'hui on en découvre, mais plutôt dans des pays comme l'Inde, où il y a encore ces personnes méditantes qui vraiment s'installent là-dedans. Et puis, ce qui me touche aussi, c'est que ce personnage a été un militaire, et ça a été aussi un juge, et que à la fin de sa vie, un peu bon gré mal gré, quand il a décidé de faire son ermitage, il voulait rester seul, et finalement plein de gens sont venus lui demander conseil. Et il y a des écrits, lui-même n'a pas écrit, mais il y a des écrits autour de Nicolas Deflux comme quoi ben les personnes qui venaient le rencontrer, il amenait une forme de transformation, il amenait quelque chose à ces personnes-là.
Vous voyez un peu comme un Nicolas Deflux 21e siècle, Laurent Gachou?
Non, je me vois pas comme un Nicolas Deflux, mais je dirais en tout cas je partage pas mal de ses valeurs. Et puis aussi, ce qui me touche aussi aujourd'hui, c'est que sans Nicolas Deflux, apparemment la Suisse ne serait pas ce qu'elle est maintenant, puisqu'il a œuvré pour la pacification à l'époque au 15e siècle, les rixes entre les cantons, entre les confédérés, Richwitz und Torwald, et puis Lucerne et Zurich, ils se tapaient dessus tout le temps en fait. Et il a permis en fait, grâce à son pouvoir de médiation, on venait le consulter et l'écouter, de faire en sorte que Soleure et Fribourg s'apaisent et puissent entrer dans la confédération. Grâce à lui, en partie, on est arrivé à ce que la Suisse elle est aujourd'hui. Et puis j'aime beaucoup ces valeurs de médiane, parce que encore aujourd'hui, maintenant avec la période qu'on vit, il y a des avis vraiment différents. On peut les voir sur les réseaux sociaux. Et lui, il a réussi à maintenir le lien. Déjà quand il était juge, on venait le consulter pour ces valeurs-là, ça veut dire qu'il arrivait à mettre les gens face à leur intériorité et à finalement tisser du lien malgré les divergences. Et je dirais que s'il y a en tout cas quelque chose qui me touche, c'est ça.
Laurent Gachou, ça parle aussi peut-être de ce que vous essayez de faire entre le monde énergétique de l'invisible et puis le monde des vivants qu'elle a bien en chair et en os et qui souffre et qui s'enthousiasme et qui vit en fait, c'est ça? C'est de pouvoir concilier les deux mondes?
Alors oui, et j'ai même vraiment la conviction que ce qu'on appelle le monde énergétique, qui est d'ailleurs difficile à expliquer, mais en tout cas vous avez utilisé souvent le mot énergie, alors que on sait pas exactement ce que c'est.
C'est ouais.
Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une clé de compréhension du monde, et c'est une forme de pont. Ce monde-là est un peu un pont entre le monde physique et notamment le monde émotionnel, ou en tout cas la sphère même, voire spirituelle, parce que beaucoup de personnes qui ont touché à une forme de spiritualité parlent de mouvements qui sont intérieurs, qui sont perçus comme étant vraiment à l'intérieur. Quand vous évoquez la montagne au début, il y a aussi dans vos propos quelque chose en rapport avec l'intériorité en mouvement. Donc effectivement, ça pour moi ce qui est important, c'est ce lien là et puis aussi dans la recherche scientifique aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questionnements, et ces questionnements sont importants, parce que la plupart des questionnements, c'est mais qu'est-ce qui nous manque pour comme clé de compréhension du monde, et il y a peut-être une piste là autour.
C'est intéressant, Caroline George, ça me donne envie de rebondir par rapport à votre accident que vous avez eu à 21 ans et qui vous a immobilisé pendant 2 mois. Vous avez été vraiment très très mal à cause de la montagne, mais c'est aussi grâce à cet accident-là que vous avez décidé de vous accrocher pour mieux la comprendre et pour mieux, l'arpenter, la maîtriser ou peut-être la vénérer, je sais pas. Il y a une tension en fait entre ce qui nous tue et ce qui nous rend vivants, et la montagne pour vous est tout à la fois.
Je l'aperçois pas du tout comme quelque chose qui tue, même si c'est bien sûr ça tue, les accidents de voiture ça tue, l'alcoolisme ça tue, il y a plein de choses qui tuent en fait. Elle a mauvaise presse dans les médias surtout. On focalise surtout sur ce qui se passe.
On entend beaucoup les gens pris dans les avalanches.
Voilà, exactement. Alors que dans 99% des cas il y a pas d'avalanche, et puis on focalise que sur le 1%. Ça, c'est représentatif de beaucoup de choses ces temps. Et c'est quelque chose. Je pense que l'être humain a besoin de vibrer. Et par la montagne, Moi, je vibre, mais j'ai peut-être vibré un peu trop fort là avec cet accident-là. Mais ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses aussi, et puis de l'essentiel. Il y a plein d'événements qui déterminent notre vie et qui nous permettent d'aller à l'essentiel. Et pour revenir au niveau des énergies, une image que j'aime bien, où je disais que la montagne, elle a cette capacité alchimique, en fait, de transformer d'énergie négative en positif. C'est un petit peu à l'image que nous, on est fait de 70% d'eau. Et si on imagine une mare d'eau stagnante, ça putréfie. Alors que s'il y a de la fluidité, s'il y a du mouvement, il y a de l'énergie, eh ben, ça se nettoie automatiquement, en fait. Et je pense que c'est ça que je vis en montagne.
Voilà. Laurent Gachou, je vous vois avec des yeux rieurs et une mine radieuse.
Ça, oui, non, parce que quand j'entends ces propos, je m'entends aussi expliquer de la même manière ça, comment fonctionne un petit peu le
donc on soit guide
mouvement
de montagne,
oui,
ou géobiologue, ouais, c'est la même chose, quoi, c'est ça?
Ouais, j'ai vraiment l'impression que si on enlève les étiquettes, on parle de la même chose.
Ouais, ouais. Vraiment.
Justement, ces étiquettes, Laurent Gachou, vous qui avez été enseignant en art visuel, puis après plutôt dans le milieu du théâtre comique, après dans le théâtre contemporain, plus conceptuel, maintenant voilà, en lien avec le milieu de l'invisible. Les étiquettes, c'est difficile à s'en départir. Vous êtes un peu un électron libre. C'est difficile pour vous d'être catégorisé, d'être vu par les gens.
Oui, la catégorisation, je me rends compte dans mon parcours que peut-être j'ai fait quelques stratégies d'évitement, mais mais en même temps, ça m'a permis vraiment d'explorer. Et quand je vois, quand je repense à mon parcours, aujourd'hui tout se regroupe. Parce que autant quand j'enseignais les arts visuels avec des enfants, il y avait le rapport vraiment à la transmission. Et puis les arts visuels, ça veut dire que c'est pas des maths. Voilà, ça veut dire qu'il y a toute la personnalité en fait aussi qui s'inscrit quand on pose une action aussi forte que de dessiner. Et puis moi je faisais beaucoup de dessins d'observation personnellement, donc j'allais dans la nature et c'est comme si j'absorbais en fait avec mes yeux la vie, ce qui était à l'extérieur. Et puis le théâtre aussi, c'était une manière d'absorber le monde et de restituer en fait des bouts de réalité sur une scène. Et donc, ce que je vois, c'est que ça m'a permis de sentir, de comprendre, d'appréhender les interactions entre les personnes. Et puis surtout dans le théâtre, de faire plusieurs mondes différents, ça m'a permis aussi de couvrir un peu une étendue de choses. Mmh. Donc c'est vrai que j'aime pas la catégorisation parce que elle peut parfois enfermer.
Caroline Georges, vous, avant d'être guide de haute montagne, vous avez fait des études de droit, vous avez même fait votre stage d'avocate, je crois.
Mm-hmm.
C'est ça?
Oui.
En quoi ça vous sert aujourd'hui, ce rapport, justement, on va dire plus carré, peut-être du droit?
En fait, ce que le droit m'a permis de comprendre, c'est que c'est complètement subjectif. Il y a des règles, mais elles sont toutes interprétables. Et ça s'applique au jour le jour, en fait. Et du coup, ça m'a plutôt donné un esprit de casser les règles. C'est pour ça que j'ai pas continué dans cette filière, parce que quand on parle de catégorisation, de mise en boîte, de stigmatisation et tout ça, moi, je suis plutôt pour casser toutes les boîtes et puis casser toutes ces choses dans lesquelles on met les gens, on les catégorise et ça les enferme et ça les empêche d'aller au plus proche de qui ils sont. Donc, je pense que le droit m'a permis de voir ce
de
que
vous émanciper, de voir ce que
je
besoin.
De voir ce que je voulais pas.
Ça a été assez fort. Hein. Vous avez un jour décidé de tout lâcher. Hein. Vous êtes retrouvé avec deux valises, je crois, et c'est tout.
Oui. Après, il y a un événement très très dramatique qui est arrivé dans ma vie qui m'a permis de voir que la vie pouvait être très très courte et qu'il fallait aller à l'essentiel et puis être plus proche de qui on est, en fait. Et voilà. Donc non, j'ai aucun regret de ce parcours.
Musique sur la première, Kimber Rose, Back on My Feet.
Back on my feet, high hit the street.
Primrose sur La Première. Dans l'émission aujourd'hui, premier rendez-vous, Caroline Georges et Laurent Gachou se rencontrent pour la première fois. Caroline Georges, vous avez découvert que le papa de Laurent Gachou écrivait des livres sur la montagne, ça vous a séduite, vous vous êtes dit, ah tiens, voilà le petit trait en commun, le trait d'union.
Le trait en commun, c'est que son père a écrit un livre qui s'appelle La Montagne Intérieure.
Et vous auriez pu l'écrire, ce livre?
Non, mais c'est une connexion entre lui qui vit un monde intérieur et puis moi, la montagne. Du coup, ça nous fait une montagne entre nous.
À gravir. Laurent Gachou, pour les gens qui seraient curieux de vous rencontrer, peut-être de vivre, je sais pas moi, une sortie sur un lieu sacré en Suisse, comment font-ils? Comment ils vous approchent?
Alors, il y a mon site internet qui s'appelle conscient.ch.
Au pluriel, au singulier?
Au singulier.
Ok. Ouais.
Êtreconscient.ch, donc conscient.ch.
Ouais. Et là, on peut vous découvrir dans toutes vos activités. C'est un site assez complet, c'est ça?
Oui, il y a l'agenda avec les sorties, les activités, les stages, les formations. Il y a un onglet aussi pour les interventions dans les lieux que je fais quand des personnes ont des soucis et puis qui comprennent plus ce qui arrive chez eux.
Vous avez un public assez varié, ça va, je crois. Oui. Des gens qui travaillent dans le milieu de l'immobilier jusqu'à qui, en fait?
Il y a des architectes, il y a des ostéopathes, il y a des personnes un peu de tous bords qui cherchent en fait à faire aussi du lien, à revenir à observer le monde autrement que ce qu'ils ont finalement appris de manière académique. Mm-hmm. Et puis des personnes qui cherchent à se trouver, il y a un peu de tout.
Oui. Et puis sur YouTube aussi, vos capsules rigolotes avec Docteur Conscient.
Oui, la chaîne Docteur Conscient, et on, pour l'instant il y a quelques capsules qui ont comme nom C'est pas sourcier, en référence à C'est pas sorcier, un petit clin d'œil, et puis ça a permis aussi de faire un clin d'œil à la chaîne dont le nom m'échappe maintenant, la chaîne française.
Et tout le monde s'en fout.
Et tout le monde s'en fout.
Voilà, vous avez repris un peu les codes de cette équipe qui est vraiment douée. Merci Laurent Gachou.
Avec plaisir.
Caroline Georges, de votre côté, pour vous trouver, vous avez un site internet, vous aussi, ça s'appelle intothemountainsaupluriel.com, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et là, vous proposez quoi, en fait, Caroline Georges? Les gens peuvent vous appeler pour aller gravir le Cervin, tout simplement?
Pour aller faire surtout la cascade de glace, parce que c'est ma passion première. Non, c'est pas vrai, pour tout, pour de la rando, des raids à ski, de la montagne sous toutes ses formes, l'escalade, un petit peu tout. Et sinon, on peut me trouver aussi sur Instagram, Caroline Ware George en un mot, W-A-R-E et George au singulier.
Merci beaucoup à Caroline Georges d'être venue ici pour partager un bout de votre vie, ainsi que vous, Laurent Gachou. Belle suite à tous les deux.
Merci.
Sur La Première, belle fin de journée à vous et à très bientôt.